C'était l'époque où je n'arrivais pas à me décider tout à fait pour un lieu à moi. Je n'aimais pas avoir de domicile fixe, me sentir confinée trop longtemps dans un espace que je pouvais faire mien. J'étais heureuse de ne pas posséder d'adresse. Je me vautrais dans les chambres des chaînes d'hôtels, impersonnelle et nue. Je me débarrassais au fur et à mesure des objets auxquels on finit toujours, quand on est une personne normale, par s'attacher. Tout aboutissait dans une poubelle. Brosses, vêtements, bijoux, livres, je ne gardais aucune information. J'effaçais systématiquement mes historiques, je me récitais de mémoire les codes, les numéros, les noms, les lieux. Je veillais à ne laisser aucune trace de moi dans le monde. Néanmoins, je me retrouvais chez Anne Frank tous les ans. L'annexe avait quelque chose à me donner. J'y ressentais une appartenance perdue ou à découvrir. Un sentiment vague de posséder une chambre à moi, comme l'écrivait Wolfe, dont je n'ai jamais pris au sérieux le texte sur la nécessité de se procurer une pièce pour écrire ou exister.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Anna est agent secret et comme son drôle de métier l'exige, elle n'a pas d'attache, pas d'adresse, pas de bien, pas d'amis et une identité changeante. Mais, au mépris des consignes de sécurité, elle a pourtant conservé une habitude. Chaque année, elle passe plusieurs heures dans l'annexe, devenue musée, qui fut la cachette d'Anne Frank et de sa famille à Amsterdam. Repérée là par ses ennemis, Anna est exfiltrée par son agence et assignée à résidence dans un appartement où elle doit cohabiter avec 8 autres personnes sous la garde d'un geôlier, comme elle, fou de littérature et qu'elle baptise Celestino. Avec lui, elle va entamer une relation étrange, intense et toxique, rejoint des scènes de leur livre préféré. Dans l'annexe, parue aux éditions Sabine Vespizer, l'écrivaine canadienne Catherine Mavrikakis joue avec virtuosité des codes du roman d'espionnage pour évoquer sa passion de la littérature et le pouvoir libérateur de l'imaginaire. Transformée par Celestino en Albertine, comme dans La prisonnière de Proust, Anna, la révoltée, va expérimenter le vertige de la soumission volontaire jusqu'à consentir à sa disparition. Car la mort est ici omniprésente, comme dans tous les livres de Catherine Mavrikakis. L'annexe, son 5e roman paru en France, paraît d'ailleurs en même temps que Deuil, cannibale et mélancolique, qui est le premier qu'elle avait fait paraître en 2000 au Québec. Écrit à la première personne, plein de colère et de chagrin, hommage à ses amis morts du sida. Anne Frank y est déjà présente dès les premières lignes. Bonsoir Catherine Mavrikakis. Je le disais donc dans cette présentation, les deux livres de vous qui paraissent aujourd'hui, le tout premier que vous avez écrit, Deuil cannibale et mélancolique, et celui-ci, le plus récent, l'annexe, sont liés par cette idée de la mort et surtout par la présence d'Anne Frank, à chaque fois en plein cœur de l'annexe, mais dès les premières lignes pour les deuils. Quel est votre rapport à vous, en tant que personne, mais en tant qu'écrivaine, avec la tragédie de cette petite fille enfermée avant d'être déportée?
Ben, je suis pas la seule, en fait, à avoir beaucoup travaillé comme écrivain sur Anne Frank. Je pense qu'il y a toute une tradition dont se moquent certains écrivains juifs, d'ailleurs, en disant elle est devenue quelque chose de, un objet commercial, etc. Mais moi, mon rapport à elle, c'est, j'avais l'impression que Anne Frank, depuis mon plus jeune âge, était là pour me dire on doit écrire en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité de son rapport au monde, même dans l'annexe, même enfermée, qui lui est donnée, qu'elle va chercher, mais qui lui est donnée. Et c'est cette grâce de l'écriture, d'une certaine façon, qui, pour moi, m'a fascinée dès que j'étais enfant. C'est-à-dire que j'ai commencé jeune un journal comme Anne Frank, que j'ai très vite jeté parce que j'avais peur que ma mère tombe dessus. Mais j'ai eu l'impression qu'elle me donnait la possibilité d'avoir un lieu à moi, à l'intérieur de moi, et que c'était grâce à elle que j'allais pouvoir un jour écrire. Ce qui ne s'est pas tout à fait passé, parce que j'ai écrit en fait grâce à Hervé Guibert. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une autre figure qui est apparue beaucoup plus tard pour moi, et c'est Hervé Guibert qui était un peu une image qui qui m'a aidée ou une figure qui m'a aidée à écrire.
Mais est-ce que pour vous aussi, alors en tant qu'écrivaine, Catherine Mavrikakis, le fait d'écrire recluse, parce que vous dites souvent que vous avez besoin d'être presque enfermée dans votre appartement pour pouvoir écrire, pour pouvoir être presque contrainte. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'écriture est aussi un moyen de supporter le monde, d'ordonner son désordre, mais d'ordonner votre propre désordre?
Tout à fait, c'est d'ordonner mon désordre et puis quand même y avoir droit. Parce que dans cet espace fermé, j'y ai accès alors à ce désordre ou à cette folie, disons. Et que quand je suis dans des lieux qui sont plus ouverts, j'ai l'impression que je n'y ai pas accès, que déjà c'est tellement difficile de me concentrer ou de vivre, tout simplement, que le lieu fermé, le lieu un peu carcéral, ben, avec vraiment des guillemets, parce que je suis pas en prison, hein, mais vraiment me permet d'avoir accès, puis en même temps de donner une forme à ce que je sens d'un peu informe en moi.
Alors, on va d'abord parler de l'annexe, le tout récent de vos livres, Catherine Mavrikakis. Avoir choisi Anna comme un agent secret, est-ce qu'au fond, c'est une métaphore même de l'écrivain? Parce que l'écrivain a tout pouvoir de vie et de mort sur ses personnages, et au fond, cette Anna, elle a ce pouvoir extraordinaire de donner la mort ou de laisser la vie.
Tout à fait. Et puis, c'était une métaphore en ce sens-là. Oui, parce que elle a un extraordinaire pouvoir. Et c'était aussi une autre métaphore parce que je trouvais que l'espionne ou l'agent secret se permet de s'inventer des vies, se permet d'entrer dans des histoires qui ne sont pas les siennes et de travailler avec cette matière que sont les autres et de se couler dans ces autres vies. Enfin, c'est ce que j'imagine parce que je n'ai pas exercé.
Vous n'avez jamais été agent secret, mais non, la vie. Vie est longue,
oui,
peut-être
tout à fait,
que vous pourrez.
Avis à ceux qui voudraient m'avoir dans leur équipe. J'avais l'impression qu'il y avait là un formidable pouvoir d'invention. Et donc, pour moi, ça m'a porté peu si, mon roman ne finissait pas tout à fait comme un roman d'espionnage. J'avais envie d'explorer ce territoire, mais de l'explorer d'une façon métaphorique. Et c'est un faux roman d'espionnage, c'est-à-dire ça commence comme ça, puis je me permets de le faire dévier, puis de jouer avec le genre, parce que je n'avais pas de souci de faire un vrai texte de genre.
Alors, il est certain aussi que c'est une métaphore intéressante pour l'écriture, parce que cette Anna, elle vit, on l'entendait au début de l'émission dans le petit extrait qu'on a lu, elle vit avec des masques, elle vit sous d'autres identités, et tout d'un coup, le fait de rentrer dans cet appartement protégé, où elle va se réfugier pendant un certain temps, puisqu'elle est menacée de mort à son tour, c'est l'endroit où elle va déposer les masques. Mais au fond, en déposant les masques, elle sait plus trop qui elle est. Elle a son identité propre, elle s'est un peu dissoute au fil des différentes identités qu'elle a endossées au fil des années. Et la littérature ne lui permet pas tellement non plus de se retrouver au début, puisque peu à peu, elle prend l'habitude de donner des noms de héros de papier aux gens qui partagent cet appartement avec elle. Au fond, vous êtes en train de nous dire que, à force de vivre dans la littérature et dans les idées des autres, on ne sait plus trop qui on est.
Tout à fait, j'avais envie de dire ça, c'est-à-dire j'avais envie de montrer les dangers du littéraire d'une certaine façon, c'est-à-dire que, et pourtant j'adore la littérature et je vis par la littérature, je lis tout le temps, j'aime être ailleurs, c'est-à-dire là où je crois que la vie est dans les livres, mais il y avait comme ça pour moi une espèce de méfiance face à la fiction, est-ce qu'on va pas se perdre, et puis, bon, même son origine, elle a déjà été quelqu'un, quand elle était jeune, qui aimait la littérature, mais justement, elle n'était que dans des récits. Est-ce qu'elle a déjà eu une vraie identité? J'avais envie de montrer, j'ai pas fait un essai, mais j'avais envie de montrer, par le biais du roman, que nos identités sont très construites, qu'elles sont très aléatoires, qu'elles dépendent de nos récits, bon, évidemment de nos classes sociales, de nos identités sexuelles, etc. Mais j'avais envie de montrer la fragilité d'identité, la possibilité de se reconstruire. Et ce qui me fascine aussi toujours, c'est les gens qui arrivent à changer d'identité, qui arrivent à recommencer une vie. Ça me semble extraordinaire de pouvoir se réinventer. Et ce personnage-là, quelque part, parvient toujours à se réinventer parce qu'elle connaît un peu tous les scénarios. Finalement, la littérature l'aide à connaître tous les scénarios d'avance et en sortir de tous les scénarios parce qu'elle connaît la fin et elle sait agir sur la fin.
Alors, cette Anna, enfermée dans son annexe, on va écouter une nouvelle lecture par Cécile Gayol d'une page de votre livre, Catherine Mavrikakis.
Je menais en fait une existence très réglée. Et comme en Emma Bovary, au fond de moi sommeillait une fille ennuyée que ses lectures passées contaminaient trop. J'avais jadis essayé de comprendre l'espèce humaine par la lecture. Durant ma jeunesse, quand j'étudiais la littérature et la philosophie aux États-Unis, en Allemagne et en Russie, j'inventais une vie aux autres, lors de complexes exercices à la fois intellectuels et spirituels. Mes lectures me permettaient de déchiffrer des tas de signes à même le corps, les gestes et les actions de ceux et celles qui m'entouraient. J'en faisais le matériau d'une histoire fabuleuse que je pouvais transformer à loisir. Plus tard, dans le cadre du travail, cet entraînement m'avait paru utile. Dans le métier d'agent secret, il reste de mise d'imaginer les morceaux manquants d'un récit ou d'une existence. Il s'agit d'interpréter afin de poser les bons gestes. Pour les espions, comme pour tous les êtres humains, il est important de trouver une fiction sur soi et sur autrui qui crée une cohérence. Sous l'égide de cet ordre du monde inventé, les événements se classent. Ils se soumettent à une rationalité, fictive bien sûr, mais comment y échapper, conduisant à l'action. Avec les années, j'avais dû abandonner l'aspect romanesque, interminable, de mes spéculations sur autrui. Divaguer, rêvasser, m'avait été très naturel. Au cours de ma vie, j'avais appris à faire plus court, à concocter des récits brefs et précis. J'allais vite à une conclusion. Je décidais de fuir ou de rester, ou encore de dégainer. Ma porosité aux indices, aux marques et symptômes, avait en quelque sorte disparu. Elle avait fait place à un état d'observation maîtrisé, à une veille permanente qui ne me conférait que des moyens d'intervention. À partir de cette merveilleuse capacité d'hospitalité de la pensée d'autrui que nous avons jeunes, le temps crée un état psychologique policier. N'entre plus qui veut dans nos psychés. C'est du moins ce que j'avais pensé être ma règle de vie depuis fort longtemps.
La suite de l'aventure va prouver qu'elle s'est trompée, effectivement, puisque quelqu'un va entrer dans sa psyché. Mais il y a une phrase dans cette page que l'on vient d'entendre, Catherine Mavrikakis, qui est intéressante. C'est « Pour les espions, comme pour tous les êtres humains, il est important de trouver une fiction sur soi et sur autrui qui nous donne une cohérence. » Est-ce que ça veut dire qu'au fond, la vérité sur soi, on est incapable de vivre avec ?
Oh, je crois complètement. C'est-à-dire que je crois qu'on se raconte une histoire qui est plus ou moins vraie, qui bien sûr va coller à certaines choses que nous avons, mais je crois que c'est un récit qui est assez faux, mais avec lequel on vit très bien, hein, parce que je suis pas en train de dire que nous sommes pas authentiques. Nous sommes authentiques dans cette inauthenticité, dans cette capacité de raconter, et on n'a pas autre chose, donc il faut le faire. Mais je crois que l'esprit humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus divisé que qu'on le montre ou qu'on a l'habitude de le voir. Je ne tiens pas du tout à dire qu'il faudrait arriver à être toujours en accord avec cette partie inconnu ou sombre de soi, c'est pas ça du tout. Mais je tiens à rappeler le rapport artificiel et fictif que nous entretenons avec nous.
Donc, dans votre livre, l'annexe, il y a deux lectures possibles. Il y a la lecture premier degré, c'est effectivement un livre d'espionnage assez joyeux, parce qu'on voit bien que vous en riez aussi. Mais il y a presque une partie fable philosophique, parce qu'au fond, Anna, cette espionne, qui arrive et qui perd ses masques et qui n'arrive plus à retrouver son vrai moi, elle va revivre à travers des livres qu'elle a aimés dans une sorte de joute avec son geôlier, ce Otto Celestino, qui va prendre une emprise incroyable sur elle. Et au fond, vous parlez de ce moment où quelqu'un, qui apparemment est fort, indépendant, rebelle même, va finir par accepter, déposer les armes au sens propre comme au sens figuré devant quelqu'un de plus fort qu'elle. Quelqu'un qui va la faire changer, la modeler comme la prisonnière de Proust aussi. Il est très présent dans ce récit, Catherine Mavrikakis. C'est une variation au fond sur le presque le délice de l'abandon de la volonté, de la soumission à autrui.
Oui, les moments qui m'intéressent, ce sont les moments où justement le récit de soi, que l'on tient sur soi, se brise. J'aime les moments où il y a l'impossibilité de continuer à croire à son récit et de voir les failles. J'aime les moments de failles. Alors Anna est justement dans un moment de crise, de catastrophe de son moi. Elle est juste, d'un seul coup, elle voit qu'elle qui a toujours eu ce récit de contrôle et de maîtrise sur elle-même rencontre quelqu'un qui est plus fort qu'elle d'une certaine façon, et elle qui n'a jamais cédé à personne, qui a toujours été, c'est une meurtrière, elle est capable de tuer, elle va s'abandonner à l'idée de sa mort. Et ça, c'est très étrange, et il y a comme quelque chose, elle découvre en elle une autre pulsion, une autre volonté qu'elle connaissait peut-être, mais qu'elle avait oubliée en elle. Et ça m'intéresse beaucoup de penser à ces moments-là où justement il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque... vous disiez délice. Oui, il y a quelque chose de délicieux à s'abandonner, d'extrêmement dangereux aussi. Mais il y a quelque chose. Pour moi, moi, je fais pas confiance aux gens. Alors voilà, ça règle la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir me dire. Ben, ça, je serais bien sous cette tutelle-là. Je serais bien dans ces bras-là. Je serais bien. Je devrais m'abandonner. Et c'est ces moments-là qui m'intéressent, les moments où on n'est plus sur ses gardes, en fait.
C'est le pouvoir de l'écrivaine que vous nous décrivez. C'est beaucoup moins dangereux pour vous, Catherine Mavrikakis, de vous abandonner à ces délices mortifères par l'intermédiaire d'un personnage de papier.
Bien sûr, tout à fait, je peux me le permettre dans l'écriture.
Alors, Anna, elle a vos goûts littéraires, Catherine Mavrikakis, et c'est ce qui va scander toute cette période où elle habite dans cette annexe, dans cet appartement fermé dont elle ne peut pas sortir, avec d'autres personnes, exactement comme la petite Anne Frank, qui n'avait pas choisi non plus d'habiter avec des gens qui n'étaient pas de sa famille. Et Anna, avec Célestine, va donner des noms d'œuvres. Alors on va défiler de Tourguenieff, Dostoïevski, Asimov, Proust, bien sûr. Et puis il y a un livre qui revient très très fréquemment, on sent qu'il est important pour vous pour construire la trame de ce livre, c'est Le baiser de la femme araignée de Manuel Puig, qui est un auteur argentin, et qui effectivement, qui a été porté au cinéma d'ailleurs, à l'écran, et qui est un livre assez vertigineux justement sur les pouvoirs du récit, comme dans Les Mille et une Nuits. Deux hommes sont enfermés dans une geôle. Ils sont très différents. Parlez-nous-en et pourquoi ce livre est important pour vous, Catherine? Alors,
ce livre, d'abord, j'ai vu le film quand j'étais jeune, et puis je me suis dit, il faut que je lise ce livre, c'est extraordinaire. Et donc, c'est l'histoire d'un prisonnier politique qui est enfermé dans une cellule avec quelqu'un qui est là parce qu'il a commis des crimes sexuels et qui était étalagiste. Et ces deux hommes se rencontrent dans cette cellule improbable, et l'étalagiste doit soutirer des renseignements politiques à celui qui est le prisonnier politique. Donc il va se passer entre eux une espèce de danse incroyable, puisque l'étalagiste va commencer à raconter des films kitsch que le prisonnier politique, lui, ne devrait pas aimer parce qu'il n'aime pas les films kitsch. Et ils vont tous les soirs, cet étalagiste Scheherazade va raconter quelque chose de l'histoire. Et finalement, le prisonnier politique va de plus en plus se trouver sous l'emprise de ces histoires-là et de cet homme-là qui est homosexuel et qui aimerait bien avoir un baiser. Donc, au moins un baiser. Et donc ils vont ça va finir celui qui croyait prendre va être pris, et donc c'est celui qui devait donc trahir l'étalagiste qui va tomber réellement amoureux de cet homme, et j'aimais j'aimais cette espèce de d'emprise, de possibilité que les choses tournent. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup aimé la pièce Huis clos de Sartre. Il y a quelque chose comme ça de commun entre ces deux textes. Je les ai lus à la même époque, donc peut-être c'est simplement ma façon de voir. Mais j'avais l'impression qu'il y a la possibilité dans un espace clos d'explorer la psyché humaine et les renversements et les dialectiques maître-esclave, et on ne sait plus qui commande qui et qui prévoit l'autre. Enfin, ça me plaît beaucoup de penser à ces rapports de pouvoir. Et est-ce que pour moi, ce qui est important avec Anna, entre Anna et Celestino, c'est que c'était peut-être pas si sexuel que ça. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pas tant envie d'un baiser que ça. Elle a envie de qu'on la prenne dans ses bras, que Celestino. Mais j'aimais bien explorer aussi cette domination qui n'était pas purement sexuel ou qui n'avait pas ça comme but. Il y avait quelque chose qui, parce que moi je me sens très subjuguée par des gens sans nécessairement vouloir avoir couché avec eux, disons-le comme ça. Il y a quelque chose de peut-être d'enfantin en moi, et chez Anna en fait, je crois qu'elle a besoin de quelqu'un qui la rassure et qui en même temps lui dise quoi faire.
Il y a aussi dans le registre des métaphores, Catherine Mavrikakis, quelque chose qui frappe aussi, c'est que ce Celestino, au fond, il est presque le fameux Caron, le Nocher, qui s'apprête à faire passer les humains du rivage des vivants au rivage des morts. Et en fait, Anna, elle va embarquer avec lui, elle va se diriger vers la mort, elle va s'y soumettre. Et on voit, c'est une sorte, au fond, elle a besoin de cette rédemption, parce qu'elle a beau dire qu'elle ne regrette rien et qu'elle a tué les gens sans affect, au fond, on sent bien qu'elle est submergée par la honte, oui, la honte d'exister, la honte éventuellement de ce qu'elle a fait, mais surtout la honte d'être une survivante.
Oui.
Et puis à un moment, il y a un déclic qui va se produire, c'est vous faites l'éloge de la rébellion.
Oui, je pense qu'il faut, à un moment donné, dans tous les scénarios qui sont donnés d'avance, et justement tous les récits qui sont faits sur soi-même, il faut être capable d'en inventer un autre. Et il faut aussi, d'un seul coup, Anna, qui a toujours été en possession de ses moyens, ne l'est plus, et elle va retrouver, à mon avis, une certaine forme de maîtrise de soi qui est autre, et sur laquelle je tiens. Mais je crois beaucoup à la rébellion. Je crois que il y a quelque chose de très adolescent, je crois, dans ma pensée, mais je crois beaucoup qu'il ne faut pas se soumettre, il faut se soumettre à rien, il faut rester un esprit libre, quoi qu'il arrive, et même si on a beaucoup tendance à être subjugué par des choses qu'on ignore, en fait, parce que je crois qu'on ignore profondément par quoi on est subjugué, il faut essayer d'avoir un esprit révolté. Et j'y crois profondément, surtout à une époque où la pensée et les rapports sont pas mal préfabriqués. On a beaucoup de mal à réinventer. Tous les cadres sont faits. Et je crois que la révolte reste encore, avec ce qu'il peut y avoir de naïf à énoncer ça, quelque chose d'important.
A burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me see you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. The end of love. to the wedding, dance me on and on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Alexandra Babitsky on the violin.
J'apprends la mort de mes amis comme d'autres découvrent que leur billet de loterie n'est toujours pas gagnant. Cette semaine, j'ai encore perdu un Hervé. Et statistiquement, c'était prévisible puisque tous mes amis s'appellent Hervé et sont pour la plupart séropositifs. La mort à coup de statistiques ne me délivre de rien. Surtout pas de l'imprévu de la mort. Je ne m'habitue pas à la mort. Je ne la vois jamais venir. La mort d'Hervé, cela fait un bruit mat. Un plouf. Plouf. Et puis le silence. Un plouf qui n'arrête pas de me faire sursauter. Un plouf à répétition. Culpabilité des survivants. Pourtant je mourrais. C'est statistiquement prévisible. Mais qu'est-ce que cela nous donne comme certitude? De la mort, je ne sais que ce que mes amis morts ou malades m'ont appris. Et ils ne m'ont jamais dit comment comprendre l'incohérence de nos vies et de nos morts. Je me refuse à comprendre. Je refuse de me mettre sous la loi d'un quelconque savoir, d'une possible raison. La mort est un scandale. Je n'y peux rien. Ainsi soit-il. Je suis un cancre, une abrutie de la mort, une ignare complètement bouchée. Tout tend à s'effacer. Les traces s'estompent rapidement. Un jour, nous serons tous morts, moi et tous les miens. D'autres parleront pour nous, à notre place. Nous commémorerons ou nous oublierons du même geste. Ce n'est même pas une certitude. C'est un savoir. Et c'est déjà beaucoup. Je pourrais faire la recension de tous mes morts, dresser des listes de celles et ceux que j'ai aimés, porter en moi tous les disparus du monde, me tatouer leur patronyme sur toute la surface de mon corps glorieux, ériger des millions de monuments, avoir 1000 enfants au nom de ceux qui gisent sans moi, passer toutes les secondes de mes jours et mes nuits à réciter ces noms des oubliés. Tout, je dis bien tout, un jour ou l'autre, s'effacera, basculera. Et cela, malgré moi, me remplit d'un bonheur total. Oui, que cela s'arrête un jour, que cela finisse, que l'on n'en parle plus de mes rendez-vous avec les morts.
Catherine Mavrikakis, on vient d'entendre un extrait de ce livre qui paraît en même temps que l'annexe, qui s'appelle « Deuil cannibale et mélancolique ». C'est un livre qui est paru il y a 20 ans, c'était votre premier livre publié. C'est un sujet terrible pour un premier livre, c'est rare qu'une écrivaine s'y risque. Et on y entend déjà votre voix d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la même révolte, la même force, le même chagrin. C'est comme si la même note était tenue depuis 20 ans. Comment est-ce que vous l'avez relue 20 ans après? Comment vivez-vous avec ce livre republié?
Alors je suis très contente que Sabine Vespizer reprenne ce livre parce que je l'avais. C'est un livre très important pour moi. C'est celui qui m'a permis d'écrire et j'avais oublié que j'avais envie d'écrire dans la trentaine. Et puis, à cause de la mort de beaucoup d'amis, je me suis mis à écrire pour laisser quelque chose de leur passage. Ça restera peut-être pas longtemps, mais j'avais l'impression de poursuivre un peu leur vie comme ça. Et je le revois avec beaucoup de tendresse pour ces gens qui seraient maintenant beaucoup plus, ces amis qui seraient maintenant beaucoup plus vieux. Et le texte, j'ai l'impression que je pourrais le réécrire exactement pareil. C'est-à-dire, c'est le texte dont j'ai été très étonnée parce que tout à l'heure, le texte, l'annexe, me semble plus étranger. Peut-être que dans 20 ans, le texte, l'annexe sera très proche de moi. Mais bizarrement, je suis plutôt devenue celle qui a écrit « Deuil cannibale et mélancolique » parce que j'ai l'impression que depuis 20 ans, je suis accompagnée par ce texte. Et je trouve que les textes nous accompagnent, mais celui-là, il y avait quelque chose d'inaugural. Et comme c'est lui qui a permis ma venue à l'écriture, je lui suis très attachée. J'ai l'impression qu'il était aussi très attaché à moi.
Mais d'ailleurs, ce titre « Deuil cannibale », ça fait penser tout à fait à votre rapport aux morts. C'est-à-dire qu'au fond, en tant qu'écrivaine, ces morts vous ont constitué, vous les avez dévorés comme oui. Un cannibale. Et ce sont eux qui vous font écrire aujourd'hui ce que vous écrivez?
Ah, je crois complètement. J'ai l'impression que j'ai fréquenté des gens qui avaient énormément de talent et que ce serait eux qui seraient en train d'écrire, en fait, s'ils n'étaient pas morts. En fait, je veux le dire comme ça. Et que moi, j'ai écrit parce qu'ils sont morts et que j'ai dû justement, je les ai bouffés tout rond. J'avais pas envie de m'en séparer aussi. Cette métaphore me convient bien. J'avais envie de les garder, de les digérer, de les prendre avec moi et je savais pas comment faire quand ces amis sont morts.
Mais vous racontez souvent, Catherine Mavrikakis, que vous avez une relation particulière aux morts plus qu'à la mort encore. Oui. C'est-à-dire que les cimetières sont pour vous un lieu que vous avez fréquenté beaucoup avec votre mère et comme s'il y avait quelque chose à reprendre pour vivre dans un temps où quand même, en général, maintenant, on met la mort le plus loin possible, si c'est possible. On n'y pense plus, on n'y va plus, on ne veut pas le savoir. Vous, au contraire, vous voulez le savoir.
Oui, je ne vais pas oublier. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'on oublie beaucoup de choses et des fois, j'ai envie de tout oublier, mais pas la mort et pas les gens qui ont disparu. C'est vrai que ma mère était comme ça. Elle avait perdu beaucoup d'amis à la guerre ou des gens qu'elle avait connus et même les morts qu'elle n'avait pas connus, elle me forçait à aller les voir dans les cimetières de Normandie. Elle y tenait beaucoup et j'ai vraiment cette passion du cimetière. J'aime savoir qui a vécu, comme j'imagine des vies avec des dates, etc. Ce rapport à ceux qui ont disparu, qui ne sont plus là, mais qui ont laissé quelques traces, une trace excessivement fragile qui disparaîtra, j'en suis persuadée. Peut-être tant mieux, mais j'ai envie de faire quelque chose de cette petite trace-là.
Et alors dans ce livre, Deuil cannibale et mélancolique, Tous vos morts portent le nom d'Hervé. Vous l'avez dit tout à l'heure parce que Hervé Guibert a été important pour vous, mais sur le plan de la transmission d'une envie d'écrire, sur la façon d'écrire, ou est-ce que c'était un ami proche?
Oh, c'était pas du tout un ami, je l'ai jamais connu du tout. J'ai l'impression que c'est un ami, mais parce que je l'ai lu avant À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et quand j'ai découvert À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, j'ai eu l'impression qu'on pouvait tout écrire, qu'on avait le droit de tout écrire, et même son rapport à la mort, et il a beaucoup plus, parce que lui, beaucoup plus que moi, parce que lui, il était en train de mourir, donc il était vraiment... Et il m'a donné cette liberté. On peut parler de la mort, on peut faire d'un texte une vanité au sens de l'histoire de l'art, quelque chose, un memento mori, et j'ai l'impression qu'il m'a énormément aidée, et tous mes amis, je les appelais secrètement Hervé, et dans l'écriture, je me suis dit, je vais les appeler Hervé en hommage à Hervé Guibert, qui pour moi est une espèce de grand frère, tout comme Anne Frank. Je pense que j'ai besoin de gens qui veillent sur mon écriture.
Vous enseignez toujours la littérature?
Oui, j'enseigne la littérature.
Est-ce que justement vous arrivez, parce que dans vos écrits, on sent bien la révolte, l'envie de dévorer aussi, est-ce que du coup, pour enseigner la littérature aux jeunes, il faut parvenir à se mettre un peu à distance en tant qu'écrivaine et re-rentrer dans des rails, parce qu'au fond, un professeur, souvent, on lui demande d'être plus soumise que révoltée.
Bien sûr, je ne parle jamais de mes livres à mes étudiants, ça c'est bien évident pour moi, je n'ai jamais parlé de ça. Et je pense que je peux donner à des étudiants une forme, c'est-à-dire je peux leur donner par la lecture, les lectures que je leur conseille ou que je leur impose d'ailleurs, des formes à leur questionnement, au questionnement qu'ils ont justement à cet âge qui est parfois un peu ingrat, le début, la fin de l'adolescence ou le début de la vingtaine. Bon, après les autres ils sont plus grands et ils se débrouillent, mais j'ai l'impression que oui, le travail que je fais comme pédagogue est un travail de très rationnel, mais en même temps j'enseigne pas la physique quantique et j'enseigne la littérature, donc je dis ça, c'est peut-être un préjugé contre la physique quantique, mais j'ai l'impression que la littérature quand même nous donne accès à certains sentiments, et qu'ils ont choisi la littérature pour avoir quand même une vision et un rapport à l'affect, à l'émotion, à l'intelligence, mais l'intelligence dans sa variété, dans sa grande variété sensible et rationnelle. Donc,
eh bien, merci infiniment Catherine Mavrikakis d'être venue nous voir aujourd'hui de si loin, de chez nos cousins du Québec. Je rappelle que vos deux livres, L'Annexe et Deuil cannibale et mélancolique, viennent de paraître aux éditions Sabine Vespizère. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.